Merci de votre invitation qui va me faire revenir à mes anciennes amours. Donc je vais vous parler dans le cadre de ce séminaire sur la surveillance. Je vais vous proposer un retour historique sur une période qui est l'entre-deux-guerres et qui est intéressante parce que, en fait, c'est à ce moment-là qu'apparaît la première forme de surveillance du cancer, s'agissant d'une surveillance que les individus seraient censés exercer sur eux-mêmes à travers la question du diagnostic précoce. Alors, je voudrais d'abord dire que ce problème des campagnes pour le diagnostic précoce du cancer qui commence au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc ces campagnes vont être à l'origine d'un certain nombre de changements majeurs qui vont porter sur plusieurs plans. D'une part, sur l'organisation sociale de la lutte contre un fléau. La lutte contre le cancer va effectivement rompre, en tous les cas se développer sur des orientations qui sont relativement très originales par rapport à ce qu'étaient les orientations de type hygiène sociale qui étaient mises en œuvre pour la lutte contre la tuberculose ou contre la syphilis et d'autres fléaux. C'est-à-dire que, contrairement à des politiques de lutte contre des fléaux, alors des fléaux infectieux, évidemment, qui étaient basés sur l'idée de dépistage et en même temps sur l'idée d'une sorte d'hygiène personnelle, on va appeler ça des campagnes de moralisation pour améliorer l'hygiène personnelle des individus, mais qui s'adressait à la grande masse, entre guillemets, et qui était essentiellement tourné vers les classes populaires. Avec la lutte contre le cancer, on va avoir affaire à un fléau qui, d'une part, touche tout le monde, et qui va... c'est la première fois qu'on va voir des associations philanthropiques. La Ligue contre le cancer que vous connaissez tous ici se crée en 1918 et c'est la première fois qu'on voit une association philanthropique s'intéresser aux membres de sa propre classe sociale. Alors pas seulement évidemment, mais je dirais la cible des milieux mondains sera la première cible de la Ligue contre le cancer en matière de campagne sur le diagnostic précoce. L'autre élément, et évidemment c'est là où réside toute l'originalité de la lutte contre le cancer, l'autre élément c'est que si on peut penser des interventions sociales sur la tuberculose, sur la syphilis, sur les maladies infectieuses en général, sur la mortalité infantile, alors même qu'on n'a pas les outils pour guérir ces maladies. On peut penser les maîtriser en ayant des actions de type prévention. Au début du XXe siècle, dans le cas du cancer, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On n'a aucune idée de ce que pourrait être un moyen de prévention du cancer. On pense qu'il n'y en a pas. Et le seul moyen d'arriver à maîtriser la maladie, c'est de la guérir. D'où une politique de lutte contre le cancer qui va se développer, qui, je dirais, contrairement à ce qui s'est fait sur la tuberculose et sur la syphilis, va prendre comme axe principal, d'une part, la création de centres anticancéreux, d'autre part, le développement de campagnes de diagnostic précoce. J'y reviendrai, évidemment. L'autre originalité, c'est que, je dirais, les campagnes de lutte contre les fléaux, je vous ai dit qu'elles avaient souvent une visée comme ça très, très moralisatrice, et surtout qu'elles cherchaient à... on pourrait dire, à constituer des populations captives, captives pour pouvoir entreprendre sur ces populations des tests de dépistage. Là, on va être dans une optique de l'intervention sociale sur le cancer, qui évidemment, à cette époque-là, est totalement privée de tout moyen de dépistage, même si certains médecins disent régulièrement avoir trouvé le test qui dépiste le cancer. Mais bon, ça ne marche pas. Donc ces campagnes de lutte contre le cancer vont se cibler non pas sur le dépistage, mais sur l'idée d'éduquer la population. À la fois de la convaincre de l'importance du cancer et du danger qu'elle court potentiellement avec une maladie qui frappe de plus en plus la population. Et deuxième point, la nécessité pour cette population d'avoir recours le plus rapidement possible à son médecin. Troisième élément qui est un élément, là aussi, tout à fait nouveau pour l'époque, c'est que ces campagnes pour le diagnostic précoce vont avoir comme objectif de modifier les représentations que se font, on va dire, les gens, hein, la population, hein, de ce que sont les symptômes d'une maladie grave. Donc il va y avoir tout un travail lors de ce qu'on appellera en sociologie de manipulation symbolique, c'est-à-dire un travail sur les représentations, de façon à faire passer dans l'opinion publique une nouvelle vision de ce qu'est à la fois son propre corps, les manifestations de son propre corps et les manifestations qui seraient susceptibles d'indiquer la possibilité d'une maladie sérieuse. Enfin, dernier point qui marque la nouveauté de cette lutte contre le cancer, et notamment et en particulier avec les campagnes de diagnostic précoce, c'est la première fois que l'objectif est d'enrôler chaque individu dans la lutte contre la maladie, contre une maladie. C'est-à-dire que l'objectif de la lutte contre le cancer va être de faire de chaque individu potentiellement cancéreux, alors ce qui fait du monde, de chaque individu potentiellement cancéreux, d'en faire un agent auxiliaire du travail médical et inséré dans la division du travail médical. Voilà. Et donc on verra, c'est ces différents points-là que je vais aborder, et on verra en fait, au fond, quels sont les problèmes que génèrent finalement toutes ces nouvelles façons de penser à la fois la médecine et la politique de lutte contre une maladie et la place des individus dans la division du travail médical. Alors, j'ai dans la première partie donc de cet exposé, parce que j'imagine que vous n'êtes pas forcément tous familiarisés avec ce qu'était l'état de la cancérologie et de la lutte contre le cancer au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, je vais essayer quand même de vous replacer la question du diagnostic précoce dans le contexte et dans le contexte de mise en œuvre de ce qui va être la première politique de lutte contre le cancer en France. Donc, qui date de 1922. On va avoir la mise en place par le gouvernement d'une commission du cancer, l'inscription du cancer au budget de l'État. C'est toujours très très important comme élément qui préside à une politique. Et puis à partir de 1923, la mise en place d'un réseau de centres anticancéreux dans le pays. Alors, cette politique de lutte contre le cancer, on peut dire qu'elle est tout entière sous-tendue par une représentation qui se résume par un slogan. Le cancer est une maladie curable s'il est traité à temps. Alors, ça, je veux dire, c'est... Quand je dis slogan, c'est parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est répété sous cette forme-là, qu'on voit publié partout, qu'on va entendre à la radio, qu'on va voir sur des affiches. Enfin, toute la propagande va être centrée sur ce slogan. Alors, l'origine, en fait, de cette idée, elle est à chercher dans les premiers succès remportés par la chirurgie. On peut dire à partir du moment, en histoire de la chirurgie, on évoque une forme de révolution de la chirurgie à la fin du 19e siècle, à partir essentiellement des années 1880, qui correspondent à la fois à l'utilisation de plus en plus courante de l'anesthésie, la mise au point de l'anesthésie localisée, et surtout aux effets du pasteurisme, c'est-à-dire au développement de l'antisepsie et de l'asepsie qui a... Alors, tout ça a transformé les conditions d'opération, a permis en boule de neige, des progrès thérapeutiques, et c'est les premières fois où on a vu des cancers, des médecins, à la fois proposer des protocoles codifiés d'intervention thérapeutique, style... le cancer style Hallstatt aux États-Unis avec le cancer du sein, ou Wertheim en Allemagne avec le cancer de l'utérus. Enfin bon, il y a comme ça tout un... Et c'est la première fois qu'on va publier des guérisons. Alors elles ne sont pas forcément... Je dirais, le malade ne survit pas forcément toujours au moment où l'article, entre le moment où l'article a été écrit et le moment où l'article est publié, mais il y a quand même cette idée qui s'accrédite de plus en plus dans les esprits, à savoir que par la chirurgie, on arrive à traiter le cancer. Et au fond, les chirurgiens sont à l'origine d'une représentation, ou on pourrait dire de type binaire, où on a une première opposition qui est cancer local, cancer général, une seconde opposition qui est cancer opérable, qui va avec cancer local, cancer inopérable, qui va avec cancer généralisé, et une troisième opposition qui est cancer curable et cancer incurable. Donc ça, c'est vraiment la matrice originelle. Alors, l'introduction de la radiothérapie là-dessus va évidemment un peu complexifier les choses, puisque l'association chirurgie-radiothérapie permet d'opérer des cancers qui avant n'étaient pas opérables, éventuellement d'améliorer, un des effets que ça va produire, c'est en l'espace de quelques dizaines d'années, l'idée que les choses sont plus compliquées qu'une opposition localisée, généralisée, mais qu'on aurait intérêt à regarder les cancers par stade d'évolution, hein, d'introduire de la différenciation. Ceci étant, même si ces représentations évoluent, le modèle ne changera pas. C'est-à-dire que toute la lutte contre le cancer reste centrée sur cette idée qu'il faut intervenir à temps. Alors même si le « à temps » correspond à des stades d'évolution de la tumeur un peu différenciés. Alors, ce slogan explique au fond que la lutte contre le cancer va reposer sur deux grands axes que les gens de la Ligue et les médecins de l'époque appellent le premier la lutte scientifique contre le cancer, le second la lutte sociale contre le cancer. La lutte scientifique contre le cancer, hein, pour le dire vite, c'est la création de centres anticancéreux, c'est-à-dire, alors ça aussi, c'est surtout pour la France, qui était quand même le pays où, comme dans les navires, le chef de service était le seul maître à bord après Dieu. Les centres anticancéreux introduisent l'idée d'une nécessaire collaboration entre différents chefs de service. Bon, même si on dit qu'il y a un chef au centre anticancéreux, mais il doit y avoir discussion des thérapeutiques entre chefs de service appartenant à des spécialités différentes, c'est-à-dire des chirurgiens, des spécialistes de radiothérapie, des radiothérapeutes. Donc, ça, c'est une innovation institutionnelle. Il n'y a jamais eu de structure de ce type-là en France avant les premiers centres anticancéreux. Alors, pourquoi une politique pour développer ces centres anticancéreux ? Essentiellement parce que, là encore, ça c'est une nouveauté qu'on doit au cancer. On se pose des problèmes financiers s'agissant des thérapeutiques. Jusque-là, ça n'a jamais... Dans le budget d'un hôpital, la thérapeutique, ça comptait pour 1% du budget de l'hôpital. Bon. Avec les traitements anticancéreux, avec la radiothérapie, on a des machines de radiothérapie, on a du radium, tout ça coûte extrêmement cher. Et il faut une politique à la fois pour, disons, pour stimuler la création de ces centres anticancéreux, l'État finançant l'équipement des centres anticancéreux. Alors, je vous rappelle qu'à l'époque, les hôpitaux sont financés par les communes. Donc, ça aussi, c'est un élément nouveau du fait que c'est l'État qui va financer le... Donc, tout ça coûte très cher. Et c'est vous dire que les députés qui ont voté le budget devaient d'abord être bien convaincus que l'argent qu'ils allaient voter pour le cancer pouvait être utile. D'où l'importance du deuxième axe. Lutte sociale contre le cancer. La lutte sociale contre le cancer, elle est composée de deux sous-axes, on pourrait dire. Alors, elle est confiée à la Ligue nationale contre le cancer. Cette partie qui sera ensuite appuyée par l'Institut d'hygiène. Et cette lutte sociale, elle se divise en deux. D'ailleurs, il y a deux sections à la Ligue. Il y a la section propagande et la section assistance. Donc, section du comité central des dames. On avait une vision très, à la limite, presque bolchevique de l'organisation de la lutte contre le cancer. Donc, la section propagande, elle a comme mission sensibiliser la population au danger du cancer, et d'éduquer la population en la sensibilisant aux signes du cancer débutant. Deuxième section, la section assistance. Alors là, la section assistance, elle a une fonction auprès des malades des centres anticancéreux. On va les visiter à l'hôpital, et puis quand ils rentrent chez eux, on assure le suivi, c'est-à-dire qu'on va voir comment ils se portent chez eux, et on les amène à prendre des rendez-vous s'ils doivent prendre des rendez-vous. Enfin, il y a tout un service social qui est fait auprès des malades, et je dirais le troisième élément en plus, on fait des espèces d'enquêtes épidémiologiques, on dirait aujourd'hui, auprès de ces malades. L'autre aspect de ce service d'assistance, c'est le placement des malades incurables, étant donné qu'à l'époque, justement pour montrer au gouvernement qu'on était plein de bonne volonté et qu'on ne voulait pas gaspiller l'argent de l'État, on a interdit aux centres anticancéreux de prendre en charge des patients incurables, parce que c'était des non-valeurs sociales et qu'il n'y avait aucune rentabilité sociale à le faire. Donc, ces incurables sont placés, suivis et placés dans des œuvres du calvaire ou autres hospices, encore que les hospices n'aimaient pas beaucoup ça, pour terminer leur jour. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand cette politique est adoptée avec ces deux volets de la lutte scientifique et de la lutte sociale, le volet lutte sociale est absolument fondamental, c'est-à-dire ça ne servirait à rien de mettre de l'argent dans les centres anticancéreux si les malades qui arrivaient dans les centres anticancéreux étaient avec des cancers généralisés incurables. Donc pour pour que cette politique ait un sens, une rationalité, il fallait mettre en avant la dimension de développer au maximum le diagnostic précoce. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'insiste pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout, sur la manière dont on va organiser ce diagnostic précoce. On dit qu'on va faire de la sensibilisation du public au diagnostic précoce, point barre. Alors là, c'est très typique aussi de la formation d'une politique publique, c'est-à-dire qu'on a intérêt quand même à acheter de la poudre aux yeux de rester dans le flou le plus vague possible si on veut faire passer la politique. Si on commence à dire, voilà, nos problèmes, c'est ça, et ça va être très difficile, il y a peu de chances que cette politique se mette en place. Donc on va voir maintenant les problèmes posés par justement la mise en place de ces campagnes de diagnostic précoce et quelles sont les solutions qui ont été trouvées. Premier problème, donc on construit les centres anticancéreux, enfin on construit, on fait ouvrir des centres anticancéreux, on commence à les équiper. Très vite, les responsables des centres et les dirigeants de la Ligue s'aperçoivent qu'arrivent dans les centres très rarement des malades avec un cancer diagnostiqué précocement. Donc comme il faut faire tourner les centres, bon, on en prend quand même, voilà. Bon. Parce qu'on ne veut pas avoir non plus des statistiques qui soient trop basses en termes de patients. Mais du coup, les résultats ne sont pas extraordinaires. Première chose dont on prend conscience, c'est que les médecins ne connaissent pas les signes du diagnostic précoce. Parce qu'à la faculté de médecine, on leur apprend le cancer, en général, sous sa phase avancée et dans sa phase souvent terminale. D'où, premier axe, la formation des médecins. La formation des médecins, donc on va supplier les carences de la faculté de médecine tout en poussant pour que à la faculté de médecine, alors ça va se faire quand des cancérologues, enfin disons quand des gens spécialistes du cancer ont commencé à devenir professeurs à la faculté de médecine, soit par exemple à titre de chirurgien, hein, il n'y aura pas de professeur cancérologue avant plusieurs décennies, mais il y aura des chirurgiens. Donc, on va compter sur eux pour introduire ça dans l'enseignement, mais entre-temps, il faut faire de la formation. Donc, l'élite chirurgicale et l'élite, on peut dire, de la radiothérapie va produire du matériel à destination des médecins, et c'est la Ligue qui enverra le matériel aux différents médecins. Là-dessus, il y a quelque chose qui est quand même intéressant à voir, c'est que on assiste à une amorce de renforcement de la hiérarchie des pouvoirs entre une élite médicale spécialisée et des médecins non spécialistes du cancer. Je ne ferai pas une opposition entre élite hospitalière et médecine de ville. Je dirais parce qu'à l'époque, les médecins hospitaliers sont tous des médecins de ville. On est bien avant la loi de Bray. Mais l'opposition entre, je dirais, des gens qui peuvent se targuer de compétences spécifiques dans le domaine du cancer, de se dire spécialiste, soit comme chirurgien, soit comme radiothérapeute, et des médecins qui n'ont ni l'une ni l'autre de ces compétences. Il est intéressant de voir que c'est à partir de cette question que, notamment par le relais de la Ligue contre le cancer, mais également que ça commence à passer également par les professeurs de la faculté de médecine, on voit s'opérer un discours sur la nécessité d'organiser la division du travail au niveau du corps médical s'agissant d'une maladie comme le cancer. Ce qu'on n'aurait jamais dit ni pour la tuberculose, ni pour aucune autre maladie. L'argument étant, si un médecin non spécialiste commence à traiter un malade du cancer, il va le rater, il va rater son traitement, et le malade est condamné à mort. Donc le médecin non spécialiste doit renoncer à tout traitement et se, je dirais, intérioriser l'idée que son rôle, c'est de faire le diagnostic. C'est pour ça qu'on lui donne les éléments du diagnostic précoce. C'est de faire le diagnostic et c'est d'orienter immédiatement le malade vers un médecin compétent. Que ce soit un chirurgien ou encore plus un radiothérapeute. Alors, il faut voir également qu'à l'époque, les spécialistes de radiothérapie cherchent à lutter contre la diffusion assez massive en ville d'eau radioactive qui sont fabriquées par des laboratoires, si on peut parler de laboratoires, enfin disons par des fabricants, et que les médecins utilisent assez facilement pour traiter le cancer. Donc, si vous voulez, pression pour organiser une division du travail dans lequel, au sein du corps médical, vous avez des diagnostiqueurs orientateurs et des traitants, des médecins traitants. Mais en même temps qu'on cherche à développer la formation des médecins généraux, enfin des médecins en matière de dépistage, de diagnostic du cancer précoce, on se rend bien compte qu'il ne suffit pas que le médecin soit bien formé, mais que si le malade ne vient pas le voir à temps, ça servira à rien. Et que donc il faut cibler le malade potentiel. Gros problème, parce que les gens qui sont les responsables des campagnes de. Qui ont la responsabilité d'organiser concrètement les campagnes de diagnostic précoce, se rendent bien compte que c'est une sorte de révolution culturelle qu'il faut introduire dans la population. À savoir que la quasi-totalité, sauf les hypochondriaques, mais la quasi-totalité de la population ne va voir le médecin que s'il y a une forte douleur, ou une forte fièvre, en soi, c'est plutôt le médecin qui va. Or, douleur, surtout douleur, c'est un signe tardif du cancer, c'est absolument pas un signe précoce. Et les signes précoces, quand on les passe en revue, c'est des petits saignements, une petite boule au sein, une constipation opiniâtre, une toux un peu qui n'arrive pas à passer, qui persiste, etc. C'est-à-dire, ce sont des éléments symptomatiques considérés comme tout à fait anodins par la grande majorité de la population. D'où cette expression que je trouve tout à fait révélatrice du secrétaire général de la Ligue, qui dit « il faut instiller dans la population » une pédagogie de la crainte salutaire. Et cette pédagogie de la crainte salutaire, on peut dire que c'est ce qui va sous-tendre les campagnes de lutte contre le cancer, en gros jusque dans les années 1970. Donc, première chose à faire, sensibiliser la population, c'est d'abord la terroriser. Donc, c'est des affiches avec « Chaque année, le cancer tue 40 000 personnes ». Puis, quelques années plus tard, c'est « Chaque année, le cancer tue 50 000 personnes ». « Chaque année, le cancer fait disparaître une ville comme Tarbes ». Alors, là, évidemment, tous les gens de Tarbes sont absolument paniqués. Bon. Donc, le cancer est un tueur, mais c'est un tueur sournois. C'est un tueur sournois qui cache son jeu. Et donc, on en arrive à cette idée que, il faut arriver à faire pénétrer dans l'esprit de la population. Alors, évidemment, on s'adresse à la population cultivée, celle qui lit, celle qui écoute la radio à l'époque, c'est pas encore un média de masse. Et on s'adresse à elle pour lui faire, au fond, rentrer dans la tête que, en matière de symptomatologie, il n'y a rien qui soit anodin a priori. Et que les symptômes les plus anodins peuvent cacher les maladies les plus graves. Bon. Et qu'en ce cas-là, si on repère ces symptômes apparemment anodins, la première chose à faire, c'est de se précipiter chez le médecin. Bon, là, les médecins ne sont pas forcément mécontents de ce type de campagne. Et cette propagande, elle va être martelée. C'est-à-dire qu'elle va être, on va la trouver à la radio, dans des affiches. La Poste va prêter ses tampons buvards pour qu'on puisse afficher sur les tampons buvards de la Poste les signes précoces du cancer. Il y aura des affiches qui seront mises parce que les propriétaires de compagnies de chemin de fer sont membres de la Ligue. Donc on va voir, ils vont prêter les wagons pour qu'on puisse y afficher aussi de la propagande anti-cancéreuse. Donc au début, dans les années 20, on a encore la représentation de la lutte contre le cancer comme une espèce de belle déesse en tunique blanche qui écarte les bras comme ça avec un crabe derrière qui est donc un peu masqué, effacé par la belle déesse grecque. Dans les années 30, on voit un chevalier avec un espèce de sabre et en face un crabe avec des ombres projetées. Enfin, c'est tout à fait terrifiant. Et le slogan, c'est « Tuez le cancer avant qu'il ne vous tue ». Là-dessus suit la liste des signes précoces. Si vous avez une constipation opiniâtre, etc., etc., précipitez-vous chez le médecin. Dans les... À la radio, vous allez entendre, parce que ces campagnes vont se passer chaque année, il y aura une semaine pour le cancer, et donc pendant cette semaine, les journaux, la radio vont relayer cette propagande anticancéreuse. Et cette propagande, par exemple, ça va être un chirurgien expliquant mesdames, s'adressant aux femmes, mesdames, vous qui pouvez passer 2 heures devant votre cabinet de toilette à vous préparer le soir avant de sortir au théâtre ou à l'opéra, consacrez donc 5 minutes à vous palper les seins. Suit la description de la manière dont il faut palper les seins. Voilà. Donc cette pédagogie de la crainte salutaire, on va voir tout de suite les effets qu'elle produit, parce qu'elle va susciter à son tour un certain nombre de problèmes. Et le premier problème, c'est un problème qui est soulevé par les médecins, qui parlent d'une nouvelle épidémie, qui saisirait la population à chaque fois qu'il y a des campagnes de propagande contre le cancer, à savoir des épidémies de cancérophobie. Donc, les cabinets sont pleins de malades qui se trouvent des cancers alors qu'évidemment ils n'en ont pas. Force est de constater que les individus n'ont pas l'air d'être aussi rationnels qu'on aurait espéré qu'ils soient et qui viennent, comme dans le sketch de Coluche, avec le cancer du bras. Alors... c'est difficile d'évaluer, mais on peut dire que ces campagnes sont quand même un échec relatif du point de vue de l'efficacité en matière de diagnostic précoce, mais qu'elles vont au moins ancrer dans la tête d'une partie, de certaines catégories de la population, que le cancer est bien, est bien un fléau des temps modernes, et qu'il faut quand même faire très très attention. Alors on sait en général pas trop à quoi, mais qu'il faut quand même faire très attention. Que la belle innocence qui pouvait exister face aux manifestations du corps n'a plus lieu d'être. Alors, je terminerai en reprenant un peu ces questions, c'est-à-dire qu'est-ce que ces campagnes... ont eu vraiment de particulier et qu'est-ce qu'on peut en trouver aujourd'hui comme écho? Donc, la première chose, c'est que ces campagnes Quand elle s'adresse au public, elle ne s'adresse pas à une masse d'individus indifférenciés. Ces campagnes s'adressent à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, on s'adresse à un public, mais c'est toujours sur l'individu, c'est l'individu en tant que tel qui est ciblé. Mais ce n'est pas n'importe quel individu. C'est-à-dire, c'est un individu dont on suppose qu'il est autonome, responsable, rationnel, dont on suppose que le comportement et la conduite découlent de ses choix raisonnables. C'est un pari risqué. Et quand je dis choix raisonnable, il s'agit bien sûr d'une raison qui est fondée sur le savoir médical. Autrement dit, que l'individu va à la fois comprendre et suivre ce que voudrait faire de lui le savoir médical. Donc elle suppose un individu qui est prédisposé, alors, qui est prédisposé, donc, alors prédisposé pourquoi ? Parce que ça serait une sorte d'attribut de l'être humain, de propriété générique à l'être humain, hein, d'un individu qui serait prédisposé à porter sur son corps un regard de type médical clinique. C'est-à-dire qu'il pourrait faire, en gros, ce que le médecin fait, c'est repérer le symptôme comme un médecin repère le symptôme. Donc, qui serait capable d'avoir cette espèce de regard froid, objectivant, hein, ce coup d'œil médical sur lui-même. Alors, évidemment, c'est un paradoxe, dans la mesure où le sens commun médical ne cesse de dire que le médecin ne doit surtout pas essayer de se diagnostiquer ou de se soigner lui-même, ou même sa propre famille, dans la mesure où là, il n'est pas dans les conditions pour être justement, pour avoir cette capacité d'objectivation. Donc, drôle de phénomène, hein, drôle de campagne, où on va demander aux profanes, à des individus non médecins, de faire sur eux-mêmes ce qu'on déconseille vivement aux médecins de faire sur eux-mêmes. Alors, si vous voulez, c'est là où on peut, je dirais, prendre comme élément de réflexion ce que le sociologue Norbert Elias développe dans son analyse sur ce qu'il appelle en engagement et distanciation. En gros, il reprend tous les débats sur est-ce que l'individu est tout entier du côté du subjectif ou est-ce que l'individu est capable d'avoir une position de distanciation critique, objectivante vis-à-vis de lui-même. En gros, d'un côté, le personnage kantien, de celui qui se survole, se voit de haut, enfin, dire kantien ou schizophrène, donc, alors, celui qui est capable de se dédoubler et de se voir et il dit, c'est une mauvaise manière de poser le problème, au fond, ce qui est le propre des êtres humains, c'est qu'on est tous dans une balance entre des dispositions à l'engagement le plus subjectif et des dispositions à regarder les choses avec un regard critique et distancié. Et que cette balance entre les deux, elle n'est pas toujours située au même endroit. Hein, il y a des moments où on est quand même plus porté à être subjectif, et des moments où on est plus porté à l'objectivité. Et il dit, mais le problème, c'est que moins on est impliqué dans une situation, plus on est porté à être objectif et critique, réflexif vis-à-vis de cette situation. Et que, en fait, plus on est engagé dans cette situation, plus on va avoir tendance à se laisser complètement gagner par ces wishful thinking. Je pourrais faire le signe de croix, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, On comprend bien dans ces conditions-là comment le fait de demander à des individus de surveiller leur propre corps et de regarder sur eux-mêmes s'il n'y aurait pas par hasard des manifestations d'un symptôme qui pourrait signifier qu'ils ont une maladie grave, ce ne sont pas précisément les conditions qui sont favorables à un regard détaché, lucide, critique et réflexif sur son propre corps. D'où les échecs patents de ces campagnes de dépistage précoce. Je dirais que si ces échecs ont été des échecs repérés par les médecins eux-mêmes, il n'empêche que les médecins n'ont jamais totalement abandonné cette logique de l'éducation aux signes précoces du cancer dans la population. Parce qu'au fond, cette idée, c'est une idée simple à travers laquelle il est possible d'intégrer chaque individu dans la division du travail médical. C'est-à-dire de faire de chaque individu ce que j'ai appelé un patient sentinelle, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un travail de type d'observation médicale, peu qualifié, mais enfin fait quand même un travail sur lui-même, et un patient qui constitue, je dirais, le premier soldat, on pourrait dire, d'une chaîne. Le premier agent d'une chaîne de division du travail au sommet de laquelle on va trouver le grand spécialiste. Alors, simple ouverture sur aujourd'hui. Aujourd'hui, ce type de patient sentinelle, alors que j'ai appelé aussi homo medicus, pourquoi ? Parce que c'est un... Comment dire ? C'est une fiction. Les campagnes de diagnostic précoce, pour produire un discours rationnel sur ce qu'elles faisaient, pour donner du poids, de la rationalité à leur discours, ont inventé, sans s'en apercevoir, une fiction, un individu fictionnel qui est cet homme ou cette femme capable de porter sur lui-même, de faire le médecin mieux qu'un médecin, puisque les médecins, en principe, ils ne doivent pas le faire. Donc cette fiction nécessaire, c'est toujours une fiction ne marche que quand elle est nécessaire, c'est-à-dire quand on ne peut pas s'en passer. Cette fiction, aujourd'hui, on la retrouve, cet homo medicus, on le retrouve dans le patient idéal, autonome, responsable et tout ce qu'on veut des maladies chroniques qui se suivent, qui se surveillent, qui se traitent, qui sont... Et avec, évidemment, je dirais, tous les problèmes qui se posent à leur niveau et tous les échecs qu'on va trouver. D'où d'ailleurs le fait que vous avez une littérature sur la compliance, ou plutôt la non-compliance des malades, mais qui tiendrait à peine dans cette pièce tellement on a écrit des choses là-dessus. Et on pourrait dire alors que le problème, au fond, il est finalement pas si compliqué que ça. C'est qu'on demande l'impossible. Alors, vous me direz, on est en 68, on disait, voilà, demandons l'impossible. Mais... Là, alors avec les questions que ça pose, c'est-à-dire que cette manière de fonctionner devient une forme d'injonction. Une injonction qui n'est pas seulement l'injonction des institutions médicales, mais qui est maintenant une injonction qui est reprise par les associations de patients. Une injonction à être, voilà, cet homo medicus. On peut dire avec sans doute... la lourdeur que ça peut représenter pour un certain nombre, la lourdeur psychologique que ça peut représenter pour un certain nombre de patients. Voilà, j'arrête, j'ai été assez long comme ça.